Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce une fois de plus, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Merci encore, car aujourd'hui, Seigneur de gloire, si nous vivons, c'est parce que tu as maintenu en nous le souffle de vie, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, tu connais nos besoins, éternel Dieu de gloire, et c'est pourquoi nous voulons encore aujourd'hui nous attendre à toi, Seigneur. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur de gloire, tu connais les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu connais ceux qui ont besoin d'être restaurés, ceux qui ont besoin d'être consolés, ceux qui ont besoin d'être fortifiés, Seigneur. Que ce soir, tu puisses, Seigneur de gloire, répondre à nos besoins, Seigneur, afin que nous demeurions attachés à toi, dans le nom de Jésus. C'est là, Seigneur de gloire, notre prière, notre volonté aujourd'hui, Seigneur, c'est d'être et de demeurer de véritables disciples. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, nous nous attendons à toi. Nous tendons l'oreille, Seigneur de gloire, à ta parole, Seigneur, et nous disposons nos cœurs, Seigneur de gloire, à t'entendre. Que toute forme d'orgueil, Seigneur de gloire, que toute forme d'incrédulité, de rébellion, éternel Dieu, soit chassée du milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur de gloire, qui voudrait emmener la distraction, Seigneur, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur de gloire, que nos pensées, que nos cœurs, que nos yeux soient entièrement tournés vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta présence et pour ton Esprit Saint, car il est écrit que là où il y a ton Esprit, il y a aussi la liberté. Et ce soir, nous voulons être libres de t'entendre, Seigneur. Nous voulons être libres de te comprendre. Renouvelle notre intelligence éternelle, car ce que nous pouvons comprendre de ta parole, nous le pouvons, Seigneur, par le concours de ton Esprit Saint. Alors, Seigneur de gloire, prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur, au milieu de nous, afin que ta volonté soit parfaite. Dans le nom de Jésus, que la gloire te soit rendue à toi seul, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous prenons le psaume 73. Psaume 73, c'est le psaume d'Asaph. Et ce soir, nous voulons nous encourager à demeurer vraiment dans les voies du Seigneur. Il y a des moments que nous passons quelquefois, il y a des choses que nous vivons qui paraissent quelquefois interminables, des situations désagréables, des situations pénibles, dont on a l'impression de ne jamais voir le bout du tunnel. On a l'impression que l'épreuve va durer d'une manière indéfinie. On a quelquefois l'impression d'avoir prié en vain, d'avoir intercédé en vain, d'avoir jeûné en vain, d'avoir fait des efforts en vain. Mais la réalité, c'est que le Seigneur est fidèle. Et si nous regardons la vie comme le monde regarde, si nous regardons la vie par rapport aux gens du monde, alors c'est normal que notre regard aussi sur la vie chrétienne soit erroné. Il y a une différence entre la vie du monde et la vie selon Dieu. Et notre regard à nous doit être tourné sur les réalités de la parole de Dieu, sur les réalités des promesses de Dieu, sur les réalités de ce que le Seigneur a annoncé, et non pas sur la réalité des informations de ce monde, sur la réalité de la nature même de l'homme. Et bien souvent, nous pouvons être, je dirais, submergés par des pensées qui nous font croire qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout, qui nous font croire qu'on ne tiendra pas avec le Seigneur, qui nous font croire que ce n'est pas possible lorsqu'on regarde tel serviteur, lorsqu'on entend tel serviteur qui a bien commencé, qui est tombé, lorsqu'on voit tel chrétien qui était rempli de zèle, qui est tombé, on a l'impression que ça finira aussi pareil pour nous. Lorsqu'on voit d'autres évoluer, on a nous quelquefois l'impression de stagner. Et je disais dernièrement à une personne qui me disait, mais j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. J'ai dit, mais cette impression te vient d'où? Cette impression te vient du fait que tu regardes les autres. Et lorsque tu vois les autres évoluer dans leur projet social, dans leur projet professionnel, toi, tu as l'impression de stagner. Or, la réalité, c'est que notre vie n'avance pas en fonction des autres, elle avance en fonction de Dieu. Ainsi, même si sur le plan social, les choses sont au point mort, sur le plan professionnel, les choses sont au point mort, mais si notre vie est conforme à ce que Dieu attend, alors certainement que notre vie avance, non pas selon le monde, mais elle avance selon Dieu. Et c'est une erreur de regarder aux autres, car on a l'impression de ne pas avancer. On a quelquefois même l'impression que Dieu fait plus que pour les autres et il ne fait pas pour nous. Et lorsque notre pensée est ainsi, alors bien souvent on se décourage. On a l'impression d'avoir été chrétien pour rien. On a l'impression d'avoir fait ce choix en vain. Or, la réalité, c'est que Dieu ne se trompe pas Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Il a dit qu'il a un plan de paix et de bonheur pour nous. Le Seigneur a préparé notre avenir. C'est pourquoi je disais que notre regard, que notre pensée doit être orientée en fonction des promesses de Dieu et non pas en fonction même de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu m'a promis, qu'est-ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Ainsi, nous calquons notre vie en fonction des promesses de Dieu, en fonction de la Bible et non pas en fonction de ce que tel a dit, non pas en fonction de ce que le monde dit, mais bien en fonction de ce que le Seigneur dit. Ainsi, même si les autres semblent avancer, si nous savons que nous n'avons rien à nous reprocher vis-à-vis du Seigneur, alors soyons certains que d'une manière spirituelle, le Seigneur est en train de faire son œuvre et les choses se manifesteront au moment où Dieu l'aura décidé, c'est-à-dire au bon moment. Dans le psaume 73, voilà un homme qui s'interroge sur le sort des méchants et en regardant les méchants, finalement, il s'est imaginé comment devait être sa vie. Il ne s'est pas dit que ma vie, est-ce qu'elle est conforme à Dieu? Est-ce qu'elle avance selon Dieu? Mais il a regardé les autres évoluer et il s'est dit, mais comment les autres évoluent de telle manière et moi je reste au point mort? Donc quelque part, donc j'ai un problème. Ou bien les efforts que j'ai faits, je les ai faits en vain. Mais à la fin de ce psaume que nous allons lire, cet homme dit, mais lorsque je pensais ainsi, j'étais un insensé. Je n'avais pas compris les réalités de Dieu. Verset 1er, psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Alors l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Alors Azaph commence par dire une réalité. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ce que Azaph déclare, ce n'est pas ce qu'il a entendu. C'est aussi ce qu'il a constaté. Il a vu que Dieu était bon. Certainement qu'il avait eu part aux bienfaits de Dieu. Il avait eu part aux bénédictions de Dieu. Donc, c'est lui-même était un témoin vivant de la gloire de Dieu, un témoin vivant de la grâce de Dieu. Il avait eu part aux bienfaits de Dieu. Mais, oubliant cette réalité un instant, son regard s'est tourné vers les méchants. C'est-à-dire ceux qui ne font aucun cas de Dieu. Ceux qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Ceux qui ne tiennent pas compte de l'existence de Dieu, qui nient l'existence de Dieu, bien que les choses leur ont été manifestées. Il dit, mais ces gens-là ne font que croître. Ils ne font que grandir. Ils augmentent leur richesse. Ils prospèrent. Et souvent, lorsqu'on regarde les gens de l'extérieur, c'est comme ça. On a l'impression, quelquefois, en regardant les païens, qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun mal. Et je discutais hier avec un frère à la maison, en parlant d'un joueur de football, on se disait, mais tout lui réussit, tout ce qu'il fait lui réussit, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sportif, tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ça, mais on peut se dire, mais le fonctionnement de Dieu est compliqué. Comment ceux qui ont eu part aux promesses du Seigneur, ceux qui se sont humiliés, vivent des épreuves quelquefois que les païens ne vivent pas. Et Azaph regardait les méchants, les voyant évoluer, il se dit, mais il y a un problème quelque part. Comment ça se fait que ces gens qui ne tiennent pas compte de Dieu prospèrent? Il était conscient que l'autorité de Dieu était la plus haute autorité. Azaph devait certainement savoir que rien ne pouvait arriver sans que Dieu le veuille. Alors comment Dieu peut-il bénir ces personnes-là, les laisser s'enrichir alors qu'ils se moquent de Dieu publiquement, ouvertement? Pourtant, ils réussissent. Et Asaph dit au verset 13, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Il s'est interrogé maintenant sur sa situation. Donc finalement, quel est l'avantage, quel est l'intérêt d'être un enfant de Dieu? Quel est l'intérêt d'être dans le peuple de Dieu si moi qui ai fait le choix de marcher avec celui qui est tout-puissant, celui qui peut toutes choses, celui qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas, et je suis dans une situation où je dois lutter. Je suis dans une situation où je dois serrer la ceinture. Et à côté de ça, l'autre évolue alors qu'il ne tient pas compte de Dieu. C'est l'erreur dans laquelle quelquefois nous tombons bien-aimés. C'est de regarder notre vie et de la comparer aux autres et d'évaluer la présence de Dieu dans notre vie en fonction de ce que Dieu permet dans la vie des autres. Nous sommes des individus tous différents, avec un passé différent, avec une éducation différente, avec des antécédents culturels différents. Et bien que le Seigneur nous ait tous sauvés, il tient compte de ce que nous étions autrefois. Et dans le plan et dans le projet qu'il a pour chacun d'entre nous, le Seigneur tient compte de toutes ces choses-là. Et bien plus encore, étant devenu enfant de Dieu, le Seigneur nous a emmenés dans une autre vie, dans un autre monde, dans une autre conception des choses qui fait que nous n'avons plus à nous comparer ou à nous mesurer en fonction des éléments de la terre, mais bien en fonction de ce que Dieu dit, bien en fonction de ce que Dieu fait. Est-ce que la vie dans laquelle je suis aujourd'hui est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que le fait que d'être dans l'épreuve est quelque chose d'anti-biblique? C'est totalement biblique. Est-ce que le fait d'avoir le minimum pour vivre, c'est anti-biblique? C'est totalement biblique. Combien de fois nous entendons de faux évangiles qui emmènent beaucoup d'entre nous à nous détourner de Dieu, à douter même de notre identité dans le Seigneur, parce que les fruits que devrait manifester un chrétien devraient être le fruit qui prouve que nous sommes des princes, que nous sommes des rois, que nous devons tout avoir, que nous devons être le premier, et toutes ces choses-là. Mais lorsque nous revenons à la parole de Dieu, alors nous pouvons voir notre vie, est-ce qu'elle est conforme au Seigneur ou pas? Est-ce que Dieu est juste ou pas? Ce qui est important, c'est ça, c'est que notre vie soit orientée et mesurée en fonction des Écritures et non pas en fonction de ce que nous voyons à l'extérieur. Asaph, ça dit, j'ai fait tout ça pour rien. Et c'est comme ça que beaucoup renoncent à la vie chrétienne. Nous avons vu des personnes venir au Seigneur, apparemment avec un cœur sincère, tel que nous les hommes nous pouvons le voir. Mais Dieu lui connaît toutes choses. Il y en a qui sont venus avec des intérêts, qui ont jeûné avec nous, qui ont jeûné 40 jours avec nous, qui ont passé du temps dans les jeûnes et la prière, du temps dans les camps bibliques, qui ont passé du temps dans les enseignements. Certains même ont prêché la parole de Dieu. Mais bien qu'étant dans cette forme d'activisme, en réalité, il y avait certaines attentes. C'est-à-dire que leur vie n'était pas calquée en fonction de la Bible. Il y avait comme une forme d'intérêt. Ils évoluaient avec le Seigneur, mais tout en regardant les gens du monde. Et ils espéraient vivre certaines choses du monde. Ils regardaient que dans le monde, tiens, les gens se mariaient. Et ils espéraient que Dieu leur donne le mariage. Ce n'était pas venir pour Dieu, mais pour espérer recevoir quelque chose en retour. Ils espéraient s'enrichir. Mais voilà, avec le Seigneur, les choses traînent. Et au lieu de regarder à Dieu, ils regardaient en même temps à l'extérieur. Et certainement qu'à un moment donné, certains se sont dit, mais avec Dieu, ça prend trop de temps. Depuis le temps que je suis chrétien, depuis le temps que je sers Dieu, depuis le temps que je prêche la parole, je vois que ma vie ne change pas. Alors, ils font demi-tour. Ils fléchissent les genoux et retournent en arrière pour avoir ce que Dieu peut-être ne serait pas capable de leur donner. Parce que ce sont des personnes qui ont fait ces efforts-là en réalité pour recevoir quelque chose en retour. Lorsqu'on vient au Seigneur, on vient au Seigneur pour ce qu'il est. On vient au Seigneur simplement parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu nous bénit ou que Dieu ne nous bénit pas, ça ne changera jamais le fait que le Seigneur est Seigneur. Que Dieu nous donne aujourd'hui ou que Dieu ne nous donne pas, ça ne changera pas le fait que le Seigneur est assis sur ton trône et il règne au siècle des siècles. C'est pourquoi dans le psaume 29, il est écrit qu'au moment du déluge, pendant que les hommes se lamentaient et criaient, Dieu était assis sur ton trône. Donc la souffrance des hommes, les conditions dans lesquelles nous sommes, ce que Dieu permet dans nos vies, même si nous murmurons, même si nous prions, même si nous quittons le Seigneur, ça ne changera pas le fait que Dieu reste Dieu. Et beaucoup qui ont regardé, qui ont oublié ces réalités-là et qui ont regardé aux autres, ont fini par renoncer et à baisser les bras. Asaph a dit, j'allais fléchir aussi. Il était sur le point de tomber. Il a porté envie à tous ces gens-là. Il a eu envie de faire comme eux. Et nous lisons la suite au verset 14. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà un homme qui revient à la raison. Il dit, lorsque j'ai médité, que j'ai réfléchi sur ces réalités-là, j'ai compris qu'en réalité, j'étais un insensé. Parce que lorsque je vois toutes ces personnes que j'enviais, je vois finalement comment ils finissent. Alors, je réalise que finalement, j'étais un insensé. Il dit, j'étais comme les bêtes de la terre. Il a réfléchi, bien aimé. Et lorsque nous réfléchissons un instant, toutes ces personnes que nous voulons copier dans les tenues vestimentaires, tous ces gens que nous copions en regardant à la télévision, bien aimé, au-delà de voir comment certains d'entre eux ont fini, nous ne savons pas ce qu'ils vivent au quotidien. Nous ne savons pas ce qu'ils sont arrivés à un haut niveau, les contrats qu'ils ont faits, sataniques, qui font que certains ne dorment pas, qui font que certains n'ont pas d'appétit. Certains sont dans des formes de souffrance, ils prennent des médicaments, des drogues pour pouvoir tenir. Et lorsque nous regardons avec nos yeux, nous envions, mais en réalité, nous ne connaissons pas la profondeur des choses. Et lorsque Asaph s'est humilié, lorsque nous aussi nous pouvons nous humilier et comprendre que finalement, ce que nous recherchons en voyant vivre les autres n'est que vanité des vanités, alors oui, nous comprenons que finalement, nous étions dans une forme de convoitise qui était insensée, qui était bête totalement, comme celle des animaux. Et Asaph a réfléchi là-dessus et il est revenu à la raison. Il a compris que non, pour moi, c'est l'Éternel qui est mon rocher. Je veux m'affermir dans le nom de l'Éternel. Et ce qui est important pour nous, bien-aimés, c'est de nous fortifier dans cette pensée-là, que tout ce que nous faisons avec le Seigneur, ce n'est pas en vain. Nous allons voir, bien-aimés, des avantages qu'il est de demeurer des justes devant Dieu. Asaph était un véritable juste. Et il a dit que lorsque je me suis dit, mais si je fais comme eux, il dit, mais non. Il n'était pas tranquille, il a dit, ça c'est pas de ma race. Je ne suis pas comme ça. Et c'est vrai que lorsque on revient et qu'on se dit, mais je veux aussi réfléchir, je veux aussi faire comme ça, on se rend compte que non, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cette vie-là n'est plus pour nous. Cette manière de parler n'est plus pour nous. Je discutais avec un frère qui m'expliquait à l'étranger par rapport à certains avantages qu'il avait, des choses compliquées qu'il vivait. Il avait les moyens de résoudre ça selon les moyens du pays. Et il s'est dit, non, je ne peux pas faire ces choses-là. Il faut simplement que je rentre parce que je vois que je risque d'entrer dans le même système. Mais il n'était pas de cette race-là. Parce que c'est un enfant de Dieu. Donc celui qui raisonne ainsi, qui entre dans les profondeurs de Dieu, qui réfléchit sur le sort des méchants, qui est véritablement juste, se rendra compte que non, la voie que je suis en train de prendre, ce n'est pas la voie qu'un enfant de Dieu doit prendre. Les choix que je suis en train de faire, je ne peux pas faire comme les autres. Ils veulent tricher pour s'en sortir. J'ai voulu faire comme ça aussi, parce que ça allait me faciliter les choses. Mais lorsque je m'assois un instant, je réfléchis, je me dis non, ça serait trahir Dieu. Je ne peux pas marcher ainsi. Et nous allons voir, bien-aimés, à travers plusieurs passages, qu'il y a un avantage pour ceux qui demeurent justes selon Dieu. Le juste selon Dieu, bien-aimés, ce n'est pas celui qui est parfait. C'est celui qui cherche à pratiquer la parole de Dieu. Celui qui ne médite pas la fausseté. Celui qui ne cherche pas à tromper Dieu, qui ne cherche pas à tromper les hommes, mais qui s'efforce de faire sa part selon les Écritures. C'est celui-là qui est considéré juste devant Dieu, celui qui n'a pas peur d'avouer ses faiblesses, celui qui n'a pas peur de se repentir lorsqu'il a mal fait. Même lorsqu'on le reprend durement, il accepte tout simplement et il dit c'est vrai. Souvenons-nous, bien-aimés, lorsque David a été repris par le prophète Nathan parce qu'il avait fait tuer son soldat après avoir pris sa femme. Nathan est venu le réprimander, lui dire que cet homme est méchant. Et David s'est tout simplement humilié. Il a accepté. Il n'a pas cherché à discuter. Pourtant, David avait commis des péchés. Mais Dieu l'a considéré véritablement comme injuste. Parce qu'il avait aussi ce cœur prêt à se repentir lorsqu'il avait fait le mal. C'est celui-là qui est juste. Celui que Dieu peut utiliser comme instrument pour sa gloire. Nous prenons le psaume 37. Nous prenons le psaume 37 et nous voyons là le témoignage de ce que David a vu, de ce qu'il a constaté. Lorsque nous pensons quelquefois que tout ce que nous le faisons en vain, parce que de nos yeux, nous ne voyons pas tout de suite les bienfaits ou le fruit de ce travail que nous avons semé, bien aimé, nous devons simplement nous souvenir que nous faisons les choses pour le Seigneur et qu'au moment voulu, le Seigneur se manifestera. Dans le psaume 37, David dit, nous lisons à partir du verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Celui qui demeure juste bénéficie du témoignage du Seigneur en sa faveur. Mais combien même de son vivant, il n'expérimente pas, je dirais d'une manière parfaite, toutes les grâces de Dieu en termes de bénédiction matérielle, mais c'est un héritage qu'il laisse à tous ceux qui viendront derrière lui. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est-à-dire, durant toute ma vie, j'ai observé les justes. J'ai vu ceux qui étaient compatissants envers les pauvres. Ceux qui avaient cet amour pour donner, pour partager. Il dit, j'ai vu la fidélité de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens qui n'ont manqué de rien. Ils n'ont peut-être pas été milliardaires. Ils n'ont peut-être pas été millionnaires. Mais ils n'ont manqué de rien. Et bien plus encore, même après eux, leur postérité non plus n'a pas mendié son pain. C'est-à-dire que non seulement Dieu a pris soin d'eux en leur permettant d'avoir ce qu'il fallait, mais le Seigneur s'est aussi souvenu de leur postérité, de leurs enfants, peut-être même de leurs petits-enfants. Donc lorsque nous sommes justes devant Dieu et que nous persévérons à demeurer dans cet état de juste, bien-aimés, nous le faisons non seulement parce que nous voulons honorer Dieu, parce que nous aimons Dieu, mais en le faisant aussi, c'est un bien que nous faisons à tous ceux qui viendront après nous. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde combien les hommes en général ont le souci de laisser quelque chose à leur enfant, ont le souci de laisser un héritage à leur enfant. Mais il y a une réalité. C'est qu'il y a des gens qui vivent avec le minimum et qui matériellement ne laisseront rien à leur enfant. Et lorsqu'on veut regarder par rapport au monde, comme ça a été le cas quelquefois au milieu des chrétiens, qui s'inquiétaient en se disant, mais autrefois quand j'étais dans le monde, j'ai travaillé, j'avais de l'argent, mais je n'ai rien fait de bon. Et là maintenant que les choses sont différentes, je n'ai rien à laisser à mes enfants. J'avais répondu à ce frère-là, j'ai dit, mais comment tu peux parler comme ça? Dans le monde, tu aurais laissé quoi? Des maisons à tes enfants? Tu aurais laissé quoi? Un compte à tes enfants? Tu étais prêt à leur laisser ça? Alors que là, tu es dans la position de leur laisser plus que ça, de leur laisser le Seigneur. Et c'est ça qui est le plus important. Et si nous regardons par rapport au monde, c'est normal que la déception soit grande et que beaucoup s'endettent pour acheter des terrains, pour dire au moins j'aurais laissé un terrain aux enfants, pour construire une maison, pour dire au moins j'aurais laissé ça aux enfants. Et bien souvent, les enfants n'en profiteront même pas. Bien-aimés, si nous pouvons savoir le nombre de problèmes qu'il y a dans les familles à cause du problème de l'héritage, les terrains qui ont été laissés, les enfants se déchirent à cause de ça. On cherche à vendre, tel ne veut pas. On cherche à vendre, tel veut construire. Et beaucoup de familles sont divisées à cause de l'héritage, bien-aimé. Souvenons-nous même de cet épisode où des frères sont venus dire au Seigneur, mais viens nous départager. Le Seigneur dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Le problème de l'héritage laisse un véritable conflit dans les familles. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont le souci à tout prix de laisser quelque chose de matériel aux enfants. Alors ils vont entrer dans des procédures, ils vont entrer dans des démarches, ils vont entrer dans des tracasseries, dans des soucis pour laisser quelque chose de matériel aux enfants. Mais je peux nous dire, bien-aimés, que si aujourd'hui les morts pouvaient ressusciter, beaucoup de grands-parents allaient ressusciter pour ravir le terrain qu'ils avaient laissé. Lorsqu'ils voient finalement que le bien qu'ils ont voulu faire n'a emmené que des divisions dans les familles. Et quand on parle de division, bien-aimés, ça va même jusqu'à la mort. On cherche à empoisonner l'autre. On cherche à faire de la magie pour tuer l'autre. À cause d'un terrain, à cause d'une maison. Parce que lorsque nous regardons, on se dit, mais les gens ont fait ça. Mon frère ou mon oncle, il a fait ça. Moi aussi, il faut que je le fasse pour mon fils. Il faut que je le fasse pour ma fille. Mais lorsque nous réfléchissons, bien-aimés, comme Asaph l'a dit, alors nous sommes insensés. On a porté envie aux gens du monde en se disant, mais eux laissent les héritages, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Asaph a dit, non, j'allais tomber, mais je ne suis pas de cette race-là. Alors combien même, bien-aimés, cette pensée est en nous aujourd'hui, ne tombons pas jusqu'à consommer cette pensée-là. Renonçons et revenons à notre bon sens. Et comprenons que ce que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est d'abord nous-mêmes d'être de véritables justes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les guerres des procès entre frères et sœurs. Les maisons sont là. Depuis 10 ans, 5 ans, les procès ne finissent pas. La maison est là et personne n'en profite. Le terrain est là et personne n'en profite. Lorsqu'il y a des litiges. Et David dit, j'ai vieilli. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Dieu prend soin de lui. Je n'ai pas vu sa postérité être dans des difficultés. Dieu a pris soin de cette postérité-là à cause du juste, bien-aimé. Il y a un avantage à être juste. Ne regardons pas à ce que les autres peuvent vivre en se disant, nous manquons, c'est faux. Celui qui est juste et qui vit selon dans la grâce de Dieu aura le minimum pour vivre. Dieu prendra soin de lui comme il prend soin des oiseaux, comme il habille les fleurs. Dieu prendra soin de lui selon sa fidélité et il se souviendra aussi de notre postérité, de tous ceux qui viendront après nous. Alors le souci que nous avons, bien-aimés, s'il y a un souci que nous devons avoir, c'est d'être juste devant le Seigneur, afin que nos enfants héritent aussi de toutes les bénédictions spirituelles. Que nos enfants ne demeurent pas sous la malédiction en héritant de nous la convoitise, en héritant de nous la soif du pouvoir, en héritant de nous un regard sur la vie qui est totalement contraire aux Écritures. Mais que lorsque les enfants se souviennent de nous, ils se souviennent que nous étions des justes et qu'ils aient le désir de demeurer aussi justes. C'est le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Et Dieu s'en souviendra. Nous prenons l'exemple de David lui-même dans 1 Roi chapitre 11. David était un homme, certainement qui n'était pas parfait, mais c'était un homme qui était approuvé de Dieu. C'était un homme qui était aimé de Dieu. Les épisodes de la vie de David nous montrent combien David aimait son Dieu. Combien il aimait son Dieu alors qu'il avait été officiellement un roi et qu'il était dans les possibilités de tuer Saül qui le pourchassait. David n'a pas voulu toucher à loin de l'Éternel. Il considérait que ce n'était pas lui de faire la justice, mais que si Dieu l'avait établi roi, alors c'était aussi à Dieu d'enlever Saül qui était là. Il était en position de le tuer. On a vu David fuir lorsque son fils Absalom lui a fait le coup d'état. David s'est retrouvé devant un des descendants justement de Saül qui l'a insulté, qui lui lançait la poussière. David était avec ses soldats, les vaillants hommes, à sa gauche et à sa droite. Ils ont dit, mais Seigneur, laisse, on va lui couper la tête. David a dit, laissez-le, si il le fait, donc certainement c'est Dieu qui lui a permis. Et Dieu aura pitié de moi. David avait compris qui était le Seigneur. Et lorsque Samuel est venu pour le oindre roi, il a dit, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. David avait le cœur d'un juste, c'était un véritable juste. Et dans 1 Roi 11, il nous est dit au verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observera point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point dans ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Lorsque nous lisons le livre de l'Ancien Testament, que nous voyons le livre des Juges, l'histoire d'Israël, nous voyons comment le Seigneur avait été sévère avec son peuple à chaque fois que le peuple allait vers d'autres dieux. Le Seigneur ne supportait pas la prostitution dans laquelle le peuple allait en allant auprès d'autres dieux. Il condamnait le peuple, il frappait le peuple à chaque fois que le peuple s'égarait et sortait d'aller adorer un autre dieu que l'Éternel. Et là, voilà ce que Salomon va faire. Et la Bible dit, précise, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait fait alors que Dieu lui avait apparu deux fois. La Bible souligne que Dieu lui avait apparu deux fois. Salomon avait vécu une forme de privilège en ayant vu l'apparition de l'Éternel deux fois. Mais malgré ça, par amour, la Bible nous dit, Salomon a oublié la loi de son Dieu. Il est allé prendre des femmes qui ont détourné son cœur pour qu'il se prosterne devant d'autres dieux. Et le Seigneur fut irrité de cela. Et il dit, je vais retirer le royaume. Je vais te retirer le royaume. Mais voici, le Seigneur se reprend. Il dit, toutefois, je n'enlèverai pas tout. Non pas parce que tu t'appelles Salomon, mais à cause de David. Dieu avait gardé le souvenir de David. Ce que David avait fait en honorant le Seigneur par toute sa vie était quelque chose que Dieu ne pouvait pas oublier. Parce que David était juste. Alors combien même bien-aimés, nous avons le souci de voir les membres de nos familles être sauvés. Nous pouvons comme retenir la colère de Dieu lorsque nous nous demeurons justes. Ainsi même lorsque le Seigneur veut peut-être frapper, mais lorsqu'il se souvient du juste qu'il y a dans cette famille-là, Dieu dit, je retiendrai ma main à cause de lui. Parce que dans cette souffrance-là, c'est comme si Dieu nous voyait souffrir. Alors le Seigneur retient sa main parce qu'il ne veut pas que nous souffrons. Non pas parce que les autres membres le méritent, mais simplement parce que lorsqu'il voit comme notre famille, c'est comme si c'est nous qui voyait devant en qualité de juste. Et le Seigneur retient sa main. Lorsqu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous, ce n'est pas que le Seigneur nous accorde une grâce particulière. Mais c'est simplement que lorsque Jésus-Christ est devant Dieu, c'est comme si Dieu, en voulant nous frapper, c'est son Fils qu'il voit. Lorsque les erreurs que nous faisons et que le Seigneur retient sa main, c'est comme si lorsqu'il nous voit, en réalité, il voit, c'est-à-dire à cause de Jésus. À cause de Jésus, le Seigneur retient sa main. Comme Pierre le dit, que certains pensent que Dieu tarde dans sa promesse. Mais Paul, Pierre dit, Dieu ne tarde pas. Il ne tarde pas, c'est parce qu'il veut tout simplement qu'un maximum soit sauvé. Alors il use de patience. Mais cette patience, cette colère de Dieu est retenue parce qu'il voit le juste des justes. Il voit Jésus-Christ qui est mort pour toute l'humanité. Et lorsque Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, qui voulait enlever tout le royaume, il s'est souvenu de David. Il a dit, je ne le ferai pas à cause de David. Je n'enlèverai pas tout à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi. Parce que David était juste. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que nous nous efforçons à demeurer dans la droiture avec le Seigneur. Ce n'est pas en vain. Je dis que lorsque nous sommes conscients des réalités de Dieu et que quelquefois nous nous comportons mal, nous faisons preuve d'égoïsme. Il y a des personnes qui pensent que leur péché restera leur problème avec Dieu. Ils ne réalisent pas que leur péché peut avoir des conséquences sur ceux qui les entourent. Lorsqu'on fait entrer le péché dans la maison, on ne voit pas toujours nos enfants, on ne voit pas toujours nos petits frères, nos petites sœurs. On entre avec le péché dans la maison, on ne voit pas nos enfants, on ne voit pas nos parents. Souvenons-nous, bien-aimés, lorsque Josué a perdu une guerre à cause d'un homme, à cause de Achan, à cause d'un homme, tout un peuple avait perdu une guerre à cause d'un homme. Nous avons une responsabilité en tant que justes. Et lorsque nous nous efforçons de demeurer dans cette justice, le Seigneur ne peut pas l'oublier. Le Seigneur ne peut pas l'oublier. Et je dis souvent, bien-aimé, lorsque nous sommes dans une famille, peut-être là où la femme n'est pas convertie, c'est le monsieur qui est converti, ou bien le monsieur n'est pas converti, la femme est convertie. Je ne vois pas un Dieu qui est bon laisser indéfiniment la femme souffrir parce que l'homme se comporte mal. Dans sa justice, le Seigneur finira toujours par intervenir. Tôt ou tard, le Seigneur interviendra parce que Dieu n'oublie pas la mémoire du juste. S'il peut faire du bien même à la postérité, alors à combien plus forte raison il fera du bien aussi de notre vivant. Dieu s'est souvenu de David parce que David était juste. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Son cœur était pour Dieu, son cœur était à Dieu. Il faisait tout pour honorer Dieu. Et Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il lui avait faite, parce qu'il était juste. Ce n'est pas en vain. N'envions pas, bien-aimés. Le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils de tous ceux qui le haïssent jusqu'à la quatrième génération. Mais il bénit aussi. Il bénit aussi jusqu'à la millième génération de ceux qui marchent selon ses voies. Ça, c'est la bonté de Dieu. Donc, lorsque nous sommes justes, bien-aimés, non seulement nous garantissons notre âme d'être sauvée de la fosse, mais encore, c'est un avenir que nous préparons aussi à nos enfants. D'être dans les meilleures dispositions spirituelles pour connaître Dieu, pour se donner à Dieu. D'être dans les meilleures dispositions spirituelles pour ne pas être atteint par l'ennemi. Si nous demeurons justes, alors c'est un trésor bien-aimé que nous sommes en train d'épargner aussi pour tous ceux qui viendront. Dieu s'est souvenu de David et il a dit à cause de David, je ne le ferai pas. Pourtant, le péché de Salomon était très grave. Mais Dieu a dit à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, je ne le ferai pas. Genèse chapitre 18. Abraham, le père de la foi. Et je dis souvent que Abraham n'a pas ressuscité les morts. Il n'a pas donné la vie aux aveugles. Il n'a pas fait descendre la foudre ou bien le feu du ciel. Mais il a simplement cru en Dieu. Et il a été élevé par Dieu. Il a été appelé le père de la foi. Non pas par ses miracles, mais à cause de son obéissance. Et voilà que on vient annoncer que Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorre. Abraham s'est souvenu que dans cette ville-là, il y avait son neveu qui était. Il y avait son neveu qui était. Il est dit dans Proverbe 11:11 que une ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Lorsque nous sommes justes, que nous persévérons à demeurer justes, alors nous avons aussi, je dirais, comme une forme de faveur lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. Je disais tout à l'heure que le Seigneur peut retenir quelquefois sa colère. Il retient sa colère parce que quelquefois, au milieu des gens du pays où il veut frapper, il voit là qu'il y a ses enfants. Et Abraham, au verset 23, Abraham s'approcha et dit, il vient maintenant intercéder parce qu'on lui a annoncé que la ville de Sodome et de Gomorre allait être détruite à cause des nombreux péchés qui étaient. Abraham s'approcha et dit, Genèse 18, verset 23, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham avait le souci. Et dans le souci, il a voulu sonder Dieu. Il a voulu interpeller la compassion de Dieu. Seigneur, est-ce que tu ne fais pas la différence entre ceux qui sont méchants et ceux qui sont justes ? Il dit, mais si tu nous traites de la même manière, finalement, est-ce que c'est ça la vraie justice ? Il va descendre jusqu'à 10 justes, Seigneur. Et Dieu dit, même pour 10 justes, je peux épargner la ville. Même pour 10 justes, je peux épargner la ville. Ce n'est donc pas en vain, comme Asaph l'a pensé un instant, c'est en vain que j'ai purifié ma main dans l'innocence. Donc ce n'est donc pas en vain que nous demeurons des justes dans cette ville, que nous demeurons des justes dans cette maison, dans nos maisons, dans nos familles. Il y a certainement des jugements que le Seigneur aurait voulu faire. Et certainement que Dieu a retenu sa main, parce qu'il s'est souvenu du peu de justes qu'il y avait. Nous avons un avantage à être justes. Que personne ne nous dise le contraire, que personne ne nous trompe, bien-aimé, en nous disant, mais ça fait longtemps que tu es chrétien. Regarde ta vie, n'avance pas. Tu ne te maries pas parce que tu attends que Dieu te parle. Tu penses que Dieu va descendre du ciel pour te donner un mari ? Tu peux quand même faire la démarche. C'est ce que quelqu'un m'a dit un jour. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à aller sur les sites de rencontres ? Je prie et je laisse Dieu faire la part, mais ça n'empêche pas que j'aille aussi, que je fasse aussi ma part en allant dans le site. Voilà ce qu'il me dit. Je fais simplement ma part. Vouloir aider Dieu finira toujours mal. N'écoutons pas, bien-aimés, ceux qui nous découragent en disant « Mais tous les jours, vous êtes à l'église. Les choses ne changent pas, les choses n'évoluent pas. Elles n'évoluent pas selon le dire des hommes. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit « Jusqu'à présent, j'agis car mon Père agit. » Dieu ne se reposera pas jusqu'à ce que le salut soit accompli. Dieu ne se reposera pas jusqu'à ce que ses paroles se soient accomplies. C'est sûr et certain. Donc au moment où les gens disent que les choses n'avancent pas, ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu lui agit. Et Dieu agit afin que sa parole s'accomplisse. Alors combien même si visuellement, physiquement, nous avons l'impression que les choses restent au point mort, c'est faux. La réalité, c'est que le Seigneur travaille chaque jour, travaille à chaque instant. Dieu ne se reposera pas. N'écoutons pas ces conseils-là. N'écoutons pas les pensées qui veulent nous emmener à vouloir aider Dieu en entrant dans des procédures, dans des compromis pour accélérer les choses. Ce n'est pas en vain que nous nous efforçons de demeurer enfants de Dieu. Nous avons des privilèges que le monde n'a pas. Ils ne se rendent pas compte. Il se moque peut-être de nous. Mais lui, il sert Dieu, mais il ne veut pas travailler. C'est un fainéant. Il fait le choix de servir Dieu, mais c'est la honte. C'est sa femme qui travaille. Ce sont les paroles qu'on entend, bien-aimés. Mais la réalité, c'est que le meilleur endroit où nous sommes en sécurité, c'est dans le plan de Dieu. Être juste selon Dieu, c'est la meilleure des choses. Et bien souvent, les gens qui en parlent, ils ne savent même pas que quelquefois, à cause de nous, ils bénéficient aussi de la grâce de Dieu. Sans le savoir. Mais à cause de nous, le Seigneur peut retenir sa colère. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous nous rassemblons pour prier pour la ville, que nous prions pour le pays, considérons, bien-aimés, que c'est pour l'intérêt du pays, pour le salut des personnes pour lesquelles nous prions, que nous demeurons aussi justes. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous ne regardons qu'à nous, on se dira, bon, après tout, je vais tomber tout seul. Alors que peut-être que ta prière peut apaiser le cœur de Dieu. Peut-être que ta prière peut toucher le cœur de Dieu pour amener les gens à la conversion. Dieu cherche des justes qu'il va pouvoir utiliser pour être des instruments pour le salut des hommes. Ce n'est pas en vain que nous persévérons, bien-aimés. Ce n'est pas en vain. Le temps de jeûne que nous avons passé, le temps de prière que nous avons passé, un jour nous en verrons le fruit. Et ce que nous ne verrons pas sur la terre, alors nous allons le contempler aussi lorsque nous serons au ciel. Comme les héros de la foi, la Bible dit, qui n'ont pas vu l'accomplissement de leur vivant, mais les ont tout simplement salués de loin, parce qu'ils espéraient quelque chose de meilleur. Et certainement, là où ils sont aujourd'hui, comme les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils voient l'accomplissement des promesses de Dieu, qu'ils n'ont pas vu de leur vivant. Ce n'est pas en vain que nous nous efforçons de demeurer dans la sainteté, bien-aimés. Ce n'est pas en vain. Que personne ne nous décourage. Nous voyons dans Acte 16, au verset 25, l'histoire de ce centenier. Acte 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et le jour où le Seigneur a rencontré aussi Zachée et qu'il est entré chez lui, Il a dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré à partir d'un homme. Un homme qui a voulu croire au Seigneur, qui a voulu s'humilier devant la loi du Seigneur. Et c'est exactement ce qu'on demandait à ce geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire au Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Celui qui croit au Seigneur, sa vie va démontrer qu'il a cru. Parce que sa vie va être influencée par les enseignements du Seigneur. Croire au Seigneur, c'est croire à ce qu'il dit et le mettre en pratique. C'est comme ça qu'on devient juste. Donc c'est comme s'il disait, deviens injuste et ainsi aussi ta famille sera sauvée. Quelquefois nous pleurons, nous nous lamentons lorsque nous voyons que des conversions traînent. Alors que quelquefois Dieu veut nous utiliser, il veut que nous soyons l'instrument pour le salut des membres de notre famille. Mais il voit que nous-mêmes, ce n'est pas ça. Nous-mêmes, c'est tantôt à gauche, tantôt à droite. On boite des deux pieds et on s'inquiète pour la conversion des autres. Alors que la personne que Dieu veut utiliser, c'est nous. C'est nous qui sommes les plus proches des membres de notre famille pour les amener au salut. Mais voici lorsque Dieu veut l'utiliser, il voit tout simplement, ah, je vais l'utiliser aujourd'hui, mais en même temps, sa vie est floue. En même temps, il n'a pas de position. Ce n'est pas ça être juste. Le juste est celui qui est positionné. Ce n'est pas celui qui est parfait, mais sa position est claire. Il sait qui est Dieu, il sait ce qu'il veut de Dieu, il sait ce que Dieu attend de lui et il s'efforce de marcher selon les commandements du Seigneur. Mais on pleure, on crie, quelquefois on jeûne. Il y a même des gens qui sont dans le péché qui jeûnent. Il y a des gens qui sont dans le péché qui viennent aux réunions d'intercession. Dans Jean 9, 31, il est écrit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dans Proverbes, il est écrit que la prière des méchants est une abomination devant Dieu. Dieu a besoin d'un juste. Et à cause de ce geôlier, l'apôtre lui dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. À cause de Zachée, Dieu a dit le salut aujourd'hui est entré dans cette maison. Nous voulons voir les conversions des membres de notre famille. Soyons des justes. Soyons justes, bien-aimés. Et le Seigneur agira. Le Seigneur se glorifiera. Je ne dis pas, bien-aimés, que si nous ne sommes pas, que les autres ne seront pas sauvés. Dieu fera sa volonté. Mais si selon le plan de Dieu, dans sa volonté parfaite, il a voulu que nous soyons ses instruments. Comprenons bien aimé que le privilège est pour nous. Le privilège est pour nous d'être utilisés par Dieu pour être un instrument pour le salut des autres. À cause d'injustes, Dieu peut agir. Ce n'est donc pas en vain. Et souvent, bien aimé, lorsque nous avons l'impression que tous ces efforts sont vains, c'est souvent parce que nous regardons à nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on regarde aux autres. On a des attentes personnelles. Et lorsque ces attentes personnelles ne viennent pas, on a l'impression d'avoir fait ça en vain. Mais le Seigneur, lorsque il a accepté de payer le prix, dans Jean 17, il dit, Père, je te prie pour tous ceux que tu m'as confiés, mais je te prie aussi pour tous ceux qui viendront après. Je prie aussi pour tous ceux qui viendront après. Il n'a pas eu le souci de marquer son temps, d'être quelqu'un dans le temps présent. Il a eu le souci de ce que son acte, de ce que son obéissance allait porter du fruit même après lui. Et le juste ne pense pas qu'à lui. Il pense au bien qu'il fait et des conséquences que ça aura aussi dans la vie des autres. C'est ça le juste. Il vit pour les autres. C'est là à ce que nous sommes appelés. Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Si tu es juste, toi et ta famille, tu seras sauvé. Ce n'est pas en vain que tu as persévéré à demeurer dans les voies de Dieu. Ce n'est pas en vain, bien-aimé, que nous mettons tout notre cœur à servir Dieu. Ce n'est pas en vain que nous avons renoncé au monde. Ce n'est pas en vain que nous avons refusé d'imiter les gens du monde. Dieu se manifestera. Ça, c'est une certitude. Il s'est souvenu de David. Et vous savez, il y a un verset qui dit que Jusqu'aujourd'hui, le sacrifice d'Abel parle encore. Jusqu'aujourd'hui, le sacrifice d'Abel parle encore. Et lorsqu'on nous parle de ça, c'est pour nous dire à combien plus forte raison alors le sacrifice de Jésus, il parle encore. Dieu se souvient des justes. Dieu se souvient des justes. Et le bien qu'il nous fait là, c'est un bien qui continue pour tous ceux qui viendront après nous. Nous clôturons avec Matthieu 13. Lorsque nous voyons Dieu bénir même les méchants bien-aimés, alors comprenons tout simplement que pour le Seigneur, les bénédictions matérielles ne sont donc rien. Pourquoi Dieu donnerait à ceux qui le haient et refuserait-il les choses à ceux qui l'aiment? Donc, c'est que pour le Seigneur, la valeur que nous donnons aux choses n'est pas, je dirais, selon le plan de Dieu, n'est pas selon le regard de Dieu. Quelquefois, nous donnons tellement de valeur à certaines choses que pour le Seigneur, ce n'est rien, quoi. Or, le Seigneur veut que nous puissions voir comme lui, il voit, que nous puissions donner la valeur des choses comme lui, il la donne aux choses. Les choses de la terre passeront. C'est ça que le Seigneur dit. La vraie valeur des choses, ce sont les choses spirituelles. Dans Matthieu 13, il est dit, à partir du verset 36, lorsque le Seigneur explique la parabole sur le bon grain et l'ivraie, l'ivraie qui avait été semée dans le bon champ, et les plantes ont poussé ensemble. Or, l'ivraie est une mauvaise plante qui symbolise aussi, je dirais, le péché, ce qui est mauvais. Et il y a eu une confusion parce que les gens avaient du mal à discerner finalement quelle était la bonne plante, quelle n'était pas. Donc, lorsqu'on a dit, on va arracher, il a dit, non, n'arrachez pas maintenant. Parce que si vous arrachez, vous risquez d'enlever aussi ce qui est bon. Au verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur ne nous appelle pas à vouloir prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a quelquefois une confusion dans laquelle le monde se retrouve, où on a l'impression des fois de ne pas savoir discerner qui est le vrai chrétien qui ne l'est pas, qui est le juste, qui est le méchant. Parce que quelquefois même dans l'attitude et dans les œuvres du méchant, il y a des œuvres qui caractérisent même la nature du Seigneur. Mais le Seigneur sait qu'en réalité le bien qu'ils font apparemment, leur cœur médite de mauvaises choses. Ils le font avec des arrière-pensées, ils le font avec des intentions de gagner des choses. Ils le font dans l'intention de tromper, de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et cette différence-là peut à l'œil nu être difficile à faire. Alors le Seigneur nous dit aussi qu'il y aura une autre différence qui sera faite simplement à la fin du monde. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont entrés, je dirais, dans des confrontations, dans des combats avec les gens du monde. C'est-à-dire que ce qu'ils demandent au Seigneur, ce n'est pas simplement pour vivre les bienfaits de Dieu. C'est pour prouver aux autres comment Dieu est grand. Ils veulent posséder, ils veulent faire pour prouver comment Dieu aussi est capable de faire. Or, comme je l'ai dit, bien-aimé, il y a des gens qui mourront sans avoir vu la gloire de Dieu, aucune manifestation, je dirais, miraculeuse. Il y a d'autres qui la verront. Donc ce n'est pas à nous de vouloir que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire pour prouver qu'il soit Dieu. Dieu reste Dieu. Combien même, peut-être la plupart d'entre nous, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un boiteux marcher. Je n'ai pas vu un aveugle recouvrer la vue. Je n'ai pas vu un mort ressusciter. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu n'est pas Dieu? Dieu reste Dieu. Que moi j'ai vu ces choses ou que je ne les ai pas vues, Dieu reste Dieu. Donc je ne vais pas prier. Quelquefois, nous l'avons fait aussi par jeunesse, de demander des miracles en pensant que c'est ça qui allait amener la conversion. Mais quelquefois, nous l'avons fait simplement parce que nous nous sommes sentis humiliés. Nous nous sommes sentis rabaissés. On a voulu appeler l'intervention du Seigneur qui se manifeste simplement pour nous glorifier dans la chair, pour nous défendre dans la chair. Que Dieu nous élève pour que les gens voient, voilà, moi aussi je suis un enfant de Dieu, c'est mon Dieu qui est Dieu. Nous ne sommes pas appelés à ça. Le Seigneur dit qu'il y a une différence qui se fera aussi à la fin des temps. Il dit, et à ce moment-là, les justes resplendiront. À ce moment-là, les justes resplendiront. Lorsque tout sera fini, c'est là où aussi on saura qui était qui. Qui était véritablement de Dieu et qui ne l'était pas. La différence ne se fera pas forcément de notre vivant, mais elle se fera peut-être lorsque tout sera fini. C'est pourquoi, au-delà de ce que nous pouvons espérer sur la terre, notre espérance par excellence, c'est de voir un jour le Seigneur face à face. Ce n'est pas en vain que nous nous efforçons à être justes. Même si nous sommes perdants sur la terre, sur tous les plans, professionnels, sociaux, selon ce monde, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un jour nous serons face à face avec le Seigneur. Et là, la différence sera faite. Là, la différence sera faite. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Tous les efforts que nous avons faits jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Ne baissons pas les bras. N'ayons pas l'impression de stagner, alors que nous sommes conscients que nous faisons ce qu'il faut pour être conformes aux Écritures. Si les portes de la vie professionnelle sont fermées, bénissons Dieu. Le Seigneur a ses projets. Il a ses raisons. Si sur le plan social, les choses ne semblent pas avancer alors que l'âge avance, bénissons Dieu. Dieu a aussi ses raisons. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme Asaph s'est rendu compte, maintenant lorsque j'enviais comme ça, que je regardais, je voulais comparer ma vie avec les gens du dehors en pensant que c'était ça la réussite. Lorsque je demandais des manifestations physiques pour être sûr que Dieu est avec moi, Asaph dit alors, j'étais un insensé. Mais je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Je suis entré dans les profondeurs de Dieu. Alors là, j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas comme les gens du monde. Et que le plan de Dieu pour ma vie n'est pas semblable aussi à ce que les gens du monde vivent. Je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu vit dans le plan que son Père a formé pour lui. Or, notre Dieu ne regarde pas aux choses de la terre. Son plan à lui, il est spirituel avant toute chose. Demeurons bien-aimés des justes. Que personne ne nous fasse sortir. Que personne ne nous entraîne dans le péché. Quelle que soit la personne. Que ce soit ta femme, ton mari, ton enfant, ta mère, ton père. Que personne ne nous fasse sortir de la voie du juste. Nous sommes appelés à être justes. Et ce qui est sûr et certain, c'est que nous finirons par voir la gloire de Dieu. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as appelés, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Oui, nous voulons te bénir. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai que, en regardant, Seigneur de gloire, la vie du monde, souvent nous avons envié. Nous avons envié bêtement, Seigneur, sans réaliser, Seigneur de gloire, ce que cette convoitise pouvait produire comme conséquence. Mais nous réalisons aujourd'hui, Seigneur de gloire, qu'il est bon de demeurer dans tes voies, Seigneur. Qu'il est bon de savoir que tu es avec nous, de vivre, Seigneur de gloire, dans la plénitude de ton Esprit Saint. Seigneur de gloire, c'est là notre volonté aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur de gloire, comme nous l'avons chanté, tout te donner, Seigneur, parce que tu t'es donné, toi, le premier. Et nous voulons vivre selon ta parole, parce que nous savons que c'est ainsi que nous allons hériter de toutes tes promesses. Seigneur, merci pour ce que tu nous promets, même après notre passage sur la terre, Seigneur, pour le bien que tu promets de faire à notre postérité, Seigneur de gloire. Nous nous sommes inquiétés comme les gens du monde à vouloir laisser des choses matérielles. Seigneur, si tu nous le permets, que ton nom soit béni, mais nous voulons réaliser que le plus important, c'est de laisser, Seigneur de gloire, à notre postérité le souvenir de qui tu es, Seigneur, d'être des justes, afin que eux aussi, Seigneur de gloire, soient bénis, Seigneur. Car nous voulons le bien pour nos enfants. Nous voulons le bien pour notre postérité, Seigneur. nos neveux, nos nièces, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons leur bien. Et c'est pourquoi nous voulons être justes, non pas parce que nous voulons hériter de la vie éternelle, mais parce que nous voulons aussi que d'autres après nous, Seigneur de gloire, connaissent, rencontrent, Seigneur de gloire, vivent la grâce de te connaître, Seigneur. Vivent la grâce de marcher avec toi. C'est là notre prière aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à réaliser, lorsque nous fléchissons les genoux dans l'intercession, que nous prions pour notre ville, que nous prions pour nos autorités. Seigneur, nous voyons le mal qu'ils font, Seigneur. Nous voyons comment les injustices sont commises, Seigneur, lorsque nous sommes en bas de la société, que le droit n'est pas le même à celui qui est en haut, Seigneur. Nous sommes témoins de toutes ces choses-là. Et Seigneur de gloire, nous qui sommes mauvais, Seigneur, nous avons quelquefois la colère. Si nous avons quelquefois, Seigneur, les moyens matériels d'agir, Seigneur, nous le ferions à tort, c'est vrai. À combien plus forte raison, Seigneur, toi tu es juste et tu uses de patience envers toutes ces personnes. Seigneur, mais tu le fais, c'est vrai, parce que Jésus-Christ a payé pour eux. Mais tu le fais aussi, Seigneur de gloire, parce que tu te souviens des justes qui sont dans cette ville. Seigneur, nous voulons être justes, Seigneur, afin, Seigneur Dieu de gloire, que ta colère ne s'abatte pas sur ceux qui se sont détournés de toi, sur ceux qui te méprisent, Seigneur. Seigneur de gloire, nous voulons les regarder avec un esprit de sacrifice, Seigneur, dans le nom de Jésus. Pardonne, Seigneur de gloire, le péché des membres de nos familles, Seigneur de gloire. Et c'est vrai, Seigneur, se trouverait-il un seul juste dans les familles? Seigneur de gloire, tu retiendras ta main à cause de ce juste, comme tu l'as fait, Seigneur de gloire, pour ton serviteur David. Il est écrit, Seigneur de gloire, qu'en toi, il n'y a point de favoritisme. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, nous sommes aujourd'hui, Seigneur de gloire, rassurés. Nous sommes consolés, Seigneur, de savoir que depuis le temps que nous sommes venus à toi, Seigneur, ce n'est pas du temps perdu, Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour toutes ces années de prière pour les conversions que tu as entendues, Seigneur. Nous en sommes certains, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour tous ces jours de jeûne. Nous comprenons, Seigneur de gloire, que tout cela, tel que tu nous avais inspiré, Seigneur, n'a pas été en vain. Et que nous en verrons le fruit, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire, merci. Merci de nous libérer de toute forme de convoitise, afin que nous ne regardions plus selon le monde, mais que nous regardions, Seigneur de gloire, selon toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur de gloire, de faire de nous de véritables instruments, Seigneur, pour le salut des membres de nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.